pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le 27e dimanche. Écoutez une autre parabole.
Il était un homme, maître de maison, qui planta une vigne et qui l'entoura d'une clôture. Il y creusa un pressoir et bâtit une tour. Il la loua à des vignerons et partit en voyage. Quand approcha le temps des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour en percevoir les fruits. Alors les vignerons, se saisissant de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent un troisième. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils firent de même pour eux. Après, il envoya vers eux son fils, disant : « Ils respecteront mon fils. » Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent en eux-mêmes : « Celui-ci est l'héritier, allons, tuons-le et nous aurons son héritage. » Ils le saisirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand viendra le seigneur de la vigne, que fera-t-il à ses vignerons ?
Ils lui disent :
« C'est mauvais, il les perdra malheureusement. La vigne, il la louera à d'autres vignerons qui lui remettront les fruits en leur temps. »
Jésus leur dit :
« N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, c'est elle qui est devenue la tête d'angle ? Cela vient du Seigneur et c'est une merveille à nos yeux. » C'est pourquoi, je vous le dis, le règne de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien André, le sens d'une parabole n'est pas toujours évident à saisir pour nous qui vivons 2000 ans après Jésus. Mais il n'en était pas ainsi pour ses contemporains, comme le dit d'ailleurs la suite de notre récit évangélique.
En entendant ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était pour eux qu'il parlait. Ils cherchaient à l'arrêter.
Voilà, bien nous sommes donc éclairés sur les destinataires de la parabole qui sont les prêtres et les pharisiens. Mais le contexte va aussi nous éclairer, car notre parabole, elle se trouve dans une suite de 3 paraboles que Matthieu situe à la fin de la vie de Jésus. Jésus, en effet, est entré dans Jérusalem en Messie, et il a fait un geste, disons, prophétique en purifiant le temple. Alors les chefs du temple et les membres du grand conseil, le Sanhédrin, vont lui demander des comptes. Par quelle autorité agis-tu ainsi ? Et c'est donc la réplique de Jésus. Il va répondre par la parabole, la première, celle du père et des deux fils. Un des fils sera le symbole des chefs du peuple, eux qui disent travailler à la vigne du père et en fait ne font rien. Et l'autre fils représentera, eh bien, des pêcheurs notoires, les percepteurs d'impôts, qui sont des voleurs et collaborateurs des Romains, et des pêcheurs notoires comme les prostituées. Eh bien, ce sont ceux-là, percepteurs et prostituées, qui ont été sensibles, autrefois, à la prédication de Jean le Baptiste et qui ont changé de vie. Ils travaillent, de fait, à la vigne. Et notre parabole poursuit la comparaison de la vigne, mais cette fois par les incompréhensions entre le propriétaire de la vigne et les fermiers qui sont responsables, c'est-à-dire le propriétaire Dieu et les fermiers, les chefs d'Israël, le peuple de Dieu qui va être symbolisé par la vigne. Et enfin, la troisième parabole continuera sur le même thème, des incompréhensions en prenant le symbole du repas de noces du fils du roi. Le père qui a deux fils, le propriétaire de la vigne et le roi représentent donc tous trois le Père divin. Il s'agit chaque fois de l'infidélité d'Israël à la communion d'amour avec Dieu.
Il était un homme, maître de maison, qui planta une vigne et qui l'entoura d'une clôture. il y creusa un pressoir et bâtit une tour.
Oui, la Palestine est une terre propice pour la culture de la vigne. L'image est donc très parlante aux auditeurs de Jésus. Ils savent combien la vigne demande de soins. À l'automne, en effet, il faut tailler la vigne, et éventuellement d'ailleurs la briller pour la préserver des gelées hivernales. Au printemps, il faudra souvent sarcler, émonder la vigne pour qu'elle produise de bons fruits. Et enfin, eh bien, la plupart du temps, elle sera entourée d'une clôture pour la protéger des voleurs et des animaux sauvages. Alors les prophètes ont souvent pris cette comparaison de la vigne pour illustrer le peuple d'Israël. Et le vigneron est donc le propriétaire. Alors, écoutons ce très très beau poème d'Isaïe au chapitre 5.
Que je chante à mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il la bêcha, il l'épierra, il y planta du raisin vermeil. Au milieu, il bâtit une tour, il y creusa même un pressoir. Il attendait de beaux raisins. Elle donne des raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Que pouvais-je encore faire pour ma vigne que je n'ai fait? Pourquoi espérais-je avoir de beaux raisins et a-t-elle donné des raisins sauvages? Et maintenant, que je vous apprenne ce que je vais faire à ma vigne. En ôter la haie pour qu'on vienne la brouter, en briser la clôture pour qu'on la piétine. J'en ferai un maquis. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Ronces et épines y croîtront. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. Eh bien, la vigne du Seigneur Sabaoth, c'est la maison d'Israël. Et l'homme de Juda, c'est son plan de choix. Il attendait le droit, et voici l'iniquité, la justice, et voici les cris.
Oui, dans ce très beau poème, les prophètes décrivent tellement bien le désarroi de Dieu. Ce désarroi plein de tristesse, de déception, devant les mauvais fruits que son peuple produit. Dieu attendait beaucoup de son peuple. Il a voulu faire alliance avec lui pour le faire vivre de son amour. Et cependant, sa vigne bien-aimée ne donne pas de bons fruits.
Quels sont ces bons fruits attendus?
Eh bien, ils sont ceux qu'on produit lorsqu'on observe les points fondamentaux de la Torah qui est cette règle de vie qui a été donnée par Dieu. Jésus d'ailleurs s'en explique dans sa diatribe contre les scribes et les pharisiens, eux qui étaient des spécialistes de la Torah.
Vous avez délaissé le plus important de la Torah. Respecter les droits des sans-droits, être bon, être digne de confiance.
Oui, sa dénonciation est dans la ligne des prophètes. Alors, pour rappeler cela, peut-être donnons quelques exemples, les premiers qui sont tirés du prophète Isaïe.
Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, jusqu'à ne plus laisser de place et rester seul habitant au milieu du pays. Malheur à ceux qui acquittent le coupable pour un pot de vin et qui refusent au juste la justice. Tous sont avides de profit et courent au pot de vin. Ils ne font pas droit à l'orphelin. La cause de la veuve n'est jamais appelée.
Oui, nous retrouvons ici un trait constant de la religion d'Israël, c'est que Dieu lui-même est déshonoré quand on déshonore l'être humain. Reprenons aussi un texte de Jérémie qui annonce pour les mêmes méfaits le malheur du roi Joachim.
Malheur à celui qui construit son palais au mépris de la justice et qui fait travailler les autres pour rien sans leur donner de salaire. Ton père n'a-t-il pas mangé, bu, défendu le droit et la justice? Et il a connu le bonheur. Il a pris en main la cause de l'humilié et du pauvre, et c'était le bonheur. Me connaître, n'est-ce pas cela, oracle du Seigneur? Tu n'as de regard et de pensée que pour le profit, pour répandre le sang de l'innocent et agir avec brutalité et sauvagerie.
Voilà, eh bien tous ces mauvais fruits, le prophète Michée va les résumer magnifiquement dans ce verset du chapitre 6.
On t'a fait savoir ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu.
Oui, prétendre aimer et servir Dieu sans vivre la justice et la bonté envers le prochain, eh bien, c'est un manque d'authenticité et de vérité, comme le dit si bien Isaïe au chapitre 29.
Ce peuple ne s'approche de moi qu'en parole. Il ne me glorifie que des lèvres, tandis que son cœur reste loin de moi. Sa religion envers moi n'est qu'une leçon apprise.
Oui. Eh bien, même aussi dans, après Jésus, dans la belle première lettre de Jean, on va retrouver cette, ce qu'on pourrait dire, une nécessaire équation entre amour de Dieu et amour du prochain. Saint Jean dira, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il n'aime pas son frère, il s'abuse lui-même. Car qui n'aime pas son frère qu'il a vu, ne peut pas aimer Dieu qu'il n'a pas vu.
Alors les vignerons, se saisissant de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent un troisième.
Voilà, ces serviteurs qui sont envoyés par le propriétaire pour rappeler quels sont les vrais fruits que le propriétaire attend de sa vigne, eh bien ce sont les prophètes. Et Jérémie a très bien décrit le rôle qu'ils exercent et qu'ils exercent au nom du propriétaire, au nom de Dieu.
Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël. Je n'ai rien dit ni prescrit à vos pères quand je les fis sortir du pays d'Égypte concernant l'holocauste et le sacrifice. Mais voici ce que je leur ai ordonné. Écoutez ma voix, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez en tout la voie que je vous prescris pour votre bonheur. Mais ils n'ont pas écouté ni prêté l'oreille. Ils ont marché selon leur dessein, dans l'obstination de leur cœur mauvais. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Chaque jour, je les ai envoyés sans me lasser. Mais mes fils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles, ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, ils ne te répondront pas. Tu leur diras, voilà la nation qui n'écoute pas la voix du Seigneur son Dieu et ne se laisse pas instruire.
Oui, la plupart des prophètes, en effet, ne seront pas écoutés. Le plus souvent même, ils seront rejetés, maltraités, voire tués. Écoutons ce qui est arrivé d'ailleurs au prophète Jérémie.
La parole que voici arriva à Jérémie de la part du Seigneur Dieu. Tiens-toi dans le parvis de la maison du Seigneur Dieu et tu leur diras. Si vous n'êtes pas attentifs à suivre les directives que je vous propose, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie inlassablement, et que vous n'écoutez pas, alors je traiterai ce temple comme j'ai traité Silo, et je ferai de cette ville un exemple cité dans les malédictions chez toutes les nations de la terre. Alors les prêtres et les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, « Tu as signé ton arrêt de mort. Tu oses prophétiser au nom du Seigneur Dieu. Ce temple deviendra comme Silo, et cette ville sera rasée, vidée de ses habitants. »
Un autre prophète contemporain de Jérémie, Uriyahou, proféra lui aussi des oracles semblables à ceux de Jérémie. Alors le roi Joachim chercha à le tuer. Uriyahou, lui, va s'enfuir en Égypte, mais il y sera finalement rejoint et ramené en Israël pour être exécuté. Jérémie a bien exprimé la souffrance du prophète, lui qui a la conviction de parler au nom de Dieu et au nom du Dieu pour sauver son peuple, mais qui se voit rejeté jusqu'au risque de perdre sa vie.
Et moi, j'étais comme un agneau confiant qu'on amène à l'abattoir, ignorant ce qu'il tramait contre moi. Détruisons l'arbre dans sa vigueur, arrachons-le de la terre des vivants, qu'on ne se souvienne plus de son nom.
Oui, eh bien, ce qui est arrivé à bon nombre de prophètes va arriver aussi à Jésus. Le récit de Matthieu, au chapitre 23, va décrire ce complot des chefs religieux contre Jésus.
Vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous comblez la mesure de vos pères. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides de ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. Eh bien, elle va vous être laissée déserte, votre maison.
Voilà bien le tableau dans lequel s'inscrit cette parabole de la vigne. Incompréhension, refus du message de Dieu, un message qui est pourtant porteur d'amour, et refus par ceux-là même qui font profession d'être l'élite de son peuple. Eh bien, au début de notre ère, la génération contemporaine de Jésus n'a pas plus écouté celui qui était le propre Fils, l'envoyé du Père.
Vignerons, en voyant le Fils, se dirent en eux-mêmes, « Celui-ci est l'héritier. Allons, tuons-le et nous aurons son héritage. » Ils le saisirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.
Eh bien, dans sa parabole, Jésus décrit son propre sort. Comme ce fils du propriétaire, il sera jeté en dehors de la vigne et tué. Oui, Jésus n'opposera que son amour à ce rejet de la part des responsables du peuple. En se refusant à toute violence, il fera sien ce chant, décrit déjà par Isaïe, et que nous appelons le chant du serviteur souffrant.
Comme un surgeon, il a grandi devant nous, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris et rebut de l'humanité. Homme de douleur et connu de la souffrance. Comme ceux devant qui on se voile la face, il était méprisé et déconsidéré.
Voilà le destin du Messie, ce destin que Jésus va faire sien. Oh, il aurait pu prendre l'option de fuir, mais il a choisi la folie du don de soi. Parce qu'il ne veut pas fausser ou défigurer sa communion d'amour avec Dieu son Père. L'apôtre Paul exprimera merveilleusement le choix de Jésus.
Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que le monde grec recherche une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme.
Cette démarche de Jésus, qui va livrer sa vie en silence, nous plonge dans ce grand mystère qu'est l'humble présence de Dieu, dans le monde. Et nous allons écouter ce très bel hymne du bréviaire qui décrit l'humilité de Dieu qui n'est qu'amour.
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre? Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Qui donc est Dieu pour se livrer perdant aux mains de l'homme? Qui donc est Dieu qui pleure notre mal comme une mère? Qui donc est Dieu, l'amour est-il son nom et son visage? Qui donc est Dieu qui fait de nous ses fils et ses filles à son image? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, c'est elle qui est devenue la tête d'angle. Cela vient du Seigneur et c'est une merveille à nos yeux.
Oui, voilà une citation du psaume 118. Comment comprendre cette allusion de Jésus? Ce psaume, eh bien, c'est un chant d'action de grâce d'Israël pour sa victoire sur les ennemis, mais une victoire dont il confesse qu'il ne la doit pas à ses forces humaines, mais à Dieu qui est capable de renverser les situations, puisqu'il est celui qui prend la défense des démunis, de ceux qui sont sans droit aux yeux humains.
Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur que de se fier en l'humain. Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur que de se fier aux puissants.
Jésus a souvent réfléchi à ce choix de la miséricorde et du pardon. Miséricorde et pardon, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire jusqu'au prix de sa propre vie. Miséricorde et pardon qui sont, pour lui, l'unique force pour convaincre ceux qui font le mal. Et pour cela, il est prêt à donner sa vie plutôt que de s'opposer par la violence à ceux qui le rejettent, à ceux qui refusent son évangile de miséricorde. Sur la montagne, lors d'une intense prière, la voix du Père a déjà confirmé Jésus dans ce chemin de miséricorde et il en a été transfiguré. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Pour Jésus, ce qui fait vivre pleinement l'être humain, ce n'est pas la satisfaction de ses bonnes actions, surtout s'il s'en glorifie, mais ce sont les liens de bonté et de miséricorde qu'il aura tissés avec les plus petits. En agissant ainsi, il agit à la manière de Dieu, et il se laisse lui-même envahir par la miséricorde du Père. Jésus a souvent redit cette conviction en rappelant la parole du prophète Osée au chapitre 6.
Allez donc apprendre ce que signifie « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. »
Parce que l'être humain est blessé et qu'il ne parvient pas à aimer vraiment, Jésus s'exposera en témoignant de l'amour qui est compassion et solidarité. Jésus vivra la blessure de l'être humain jusqu'à souffrir et mourir pour cela. Mais la lumière de l'amour divin qui l'a transfiguré sur la montagne le ressuscitera au matin de Pâques. Et pour les premiers chrétiens qui se transmettront cette parabole des vignerons, la lumière de la résurrection éclairera la citation du psaume « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête d'angle ». Oui, le Fils qui a été jeté hors de la vigne, tué comme une pierre que les bâtisseurs ont rejetée, eh bien ce Fils rejeté devient le premier ressuscité, le premier ressuscité des fils de Dieu. Pourquoi est-il clé de voûte? Eh bien, Jésus, qui est mort dans la perfection de l'amour, en ressuscitant, devient pour tous ceux qui vont, j'allais dire, s'accrocher à lui, devenir ses amis, il devient pour eux une source divine d'amour. Celui qui mettra sa foi en Jésus apprendra de lui et recevra de lui une force d'amour qui lui permettra à son tour de vivre respect et bonté envers tout prochain, quel qu'il soit. Luc, dans le récit des Actes des Apôtres, emploie d'ailleurs la même citation pour expliquer la guérison d'un infirme par Pierre et Jean.
C'est grâce à lui, Jésus, que cet homme se trouve là, debout, devant vous, guéri. C'est lui la pierre que vous, les bâtisseurs, aviez mise au rebut et qui est devenue la pierre angulaire.
Oui, nous avons là, j'allais dire, l'expression du mystère de la vie. C'est de la mort que surgit le vivant. Jésus choisira l'image du grain qui doit mourir en terre pour porter du fruit de vie. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle mort. Il s'agit de la mort de celui qui donne sa vie physique pour garder l'amour de son cœur plutôt que de perdre son âme en utilisant la violence. Puisqu'elle est le don de soi, cette mort garde au contraire vive dans le cœur les forces de vie et d'amour. On rejoint ici le surnom de Pierre donné à Simon. Jésus dira à Simon qu'il ne peut être une pierre de construction de son Église, c'est-à-dire une pierre du rassemblement du peuple de Dieu dans l'amour, qu'en étant la pierre rejetée, celle qui choisit le chemin de l'amour même jusqu'à la croix. C'est ainsi que les martyrs, rejetés et tués par les puissants et les violents, deviendront des modèles pour les générations suivantes qui s'inspireront de leur idéal. On connaît cette phrase, cet adage, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Oui, l'Église grandira dans les premiers siècles par ce sang des martyrs. Par contre, celui qui refuse la croix, celui qui fuit le risque d'être rejeté, eh bien au lieu d'être une pierre d'angle, devient une pierre de scandale, c'est-à-dire une pierre qui fait chuter. C'est ce que dira encore Jésus à Simon, lorsque Simon voudra le dissuader d'aller volontairement à la croix.
Va-t'en derrière moi, Satan. Tu es pour moi un scandale, une tentation de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des humains. Le règne de Dieu vous sera enlevé, pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit.
Ce règne de Dieu, symbolisé par la vigne, sera confié à un nouveau peuple. Le message qui inaugure l'évangile et qu'on appelle les béatitudes exprime ce qu'est pour Jésus ce peuple neuf. Ils sont sur le droit chemin du bonheur. Qui ? Eh bien ceux qui marchent avec Dieu, les pauvres et les humbles qui choisissent le respect de tout être humain avant de choisir l'argent, les miséricordieux qui préfèrent le pardon à tout moyen de violence, les artisans de paix qui travaillent sans cesse à l'unité. C'est avec ceux-là, avec les petits et les humbles, que Jésus s'est solidarisé. La communauté de ses disciples, encore aujourd'hui, a reçu mission de poursuivre cette solidarité. Écoutons une parabole que Jésus pourrait dire aujourd'hui.
Un riche Brésilien était propriétaire d'une grande fazenda. Il avait partagé son domaine en de nombreux lots qu'il louait aux paysans, afin qu'ils y produisent les fèves et le riz de la nourriture quotidienne. Un jour, le propriétaire partit et confia à son chef de culture le soin d'administrer son domaine. Le chef de culture se dit « Ces paysans ne peuvent me payer de gros loyers, car ils cultivent fèves et riz pour le commerce local. » Je vais casser leur bail et cultiver moi-même du café pour l'exporter dans les pays riches. » Et les paysans devinrent des travailleurs au service du chef de culture. Avec leur maigre salaire, ils avaient peine à acheter à la ville leurs fèves et leur riz pour survivre. Ayant eu vent de ce que le chef de culture faisait, le riche Brésilien lui envoya des avocats pour défendre les paysans. Mais le chef de culture soudoya des tueurs à gages pour assassiner les avocats.
Voilà une parabole de Yeshua, de Jésus de Nazareth pour l'an 2000. Travailler à la Torah, au respect des droits des pauvres et à la bonté, voilà les fruits que Dieu attend aujourd'hui des disciples de Jésus. Sinon, il confiera sa vigne à d'autres vignerons.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission, la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. À la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.